que je vais vous partager ce matin est toujours dans notre série sur le travail. Mais vous allez voir, on peut en vivre des choses, en voir, en comprendre, en saisir. Je vais commencer par le témoignage du décès de la maman de Jean-Hubert Mazel, qui est un ami avec qui on travaille dans notre réseau d'église. Il est pasteur dans l'Ariège et sa maman Alice est décédée il y a à peu près 3 semaines. Et il a raconté une histoire que j'aimerais vous raconter qui m'a beaucoup touché. Il dit, il avait demandé au Seigneur, parce qu'elle avait 90 ans, elle allait sur 91. Elle était vraiment en fin de vie, c'était clair qu'elle allait partir, et il ne savait pas quand. C'était juste une question de quand. Et puis Jean-Hubert, la nuit avant son départ, c'était le samedi, et le lendemain, c'était le dimanche, un culte. Il a dormi avec elle, il a été avec elle vraiment tout au long, et il a demandé quelque chose au Seigneur. Il a dit, Seigneur, je te prie, qu'avec tout ce qu'on a investi, tu me fasses la grâce de savoir quand elle va partir. Juste, tu m'as averti. Le lendemain au culte, ils sont en train de chanter « J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. » Au moment où ils chantent ça, ils voient sa maman en train de rentrer dans la gloire. Et ils la voient à l'âge de 35 ans. Juste la silhouette. Et lui, il est en train d'adorer Jésus parce que j'entre dans tes portes. Lui, il entre dans les portes, tu vois. Mais en même temps, elle est l'entrée, mais elle est l'entrée spirituellement, concrètement dans les portes. Il se met à pleurer. Il comprend que le Seigneur lui a donné le signe. Et au même moment, sa femme lui envoie un texto. Elle est partie. Et ça l'a énormément consolé. Il a juste quitté le culte. Comme en plus, elle habite à 10 pas. Il est monté, la voir, elle était encore toute chaude. Et puis, ils ont vécu. Vous savez, quand le Seigneur nous console ainsi, par cette vision, on ne vit pas le deuil de la même manière que quelqu'un qui se sépare, mais sans espérance. Lui, il a vécu cette séparation avec une grande consolation. Oui, c'est triste, parce que physiquement, il ne la verra plus. Mais il la reverra un jour. Et cette espérance, c'est de ça dont je vais vous parler ce matin. Nous ne vivons pas sans espérance. Nous devons grandir dans la conscience qu'il y a une vie après et nous la préparons maintenant. Elle est rentrée dans la gloire, elle était prête. Juste avant, je crois le samedi, il lui disait, est-ce que Alice, maman, t'es prête à partir? Oh, moi je suis prête. Hein? Tu veux retrouver ton Jésus? Oh oui, hein, le plus vite possible, je veux le retrouver. C'était prêt, tout était prêt, tout était réglé. Et le lendemain, un dimanche matin, rentrée dans la gloire. Et il la voit à l'âge de 35 ans. Et quelque temps après, il rentre chez lui, il regarde une photo de elle avec lui. Donc lui, il était tout jeune, elle avait 35 ans et c'est exactement le visage qu'il a vu. Vous savez, nous vivons cette vie et nous devons travailler à ce qui se passe après, nous préparer à ce qui se passe après. On peut parler aussi d'une autre image forte qui pourrait vous rester pour vous aider à fixer ce que je veux dire ce matin. Imaginez, vous vivez et puis vous travaillez fort et vous consommez tout ce que vous gagnez sans penser à la retraite. En France, on a le privilège d'avoir des retraites et encore, ça dépend pour qui, hein. Si vous êtes artisan ou si vous avez été artisan toute votre vie, des fois la retraite, il n'y a pas grand-chose, hein. Et un secret entre vous et moi, si vous êtes à la caisse des pasteurs. Vous n'avez que les yeux pour pleurer. Hein. On appelle ça la Cavimac. Donc tu travailles fort, tu peux gagner, mais si tu ne penses pas à capitaliser pour la retraite, quand tu arrives à la retraite, il n'y a pas grand-chose. En Afrique, c'est pire encore. Il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de caisse, il n'y a pas de cette solidarité qu'on connaît ici. Nous devrions rendre plus gloire à Dieu pour avoir ici un système de retraite qui est un système de solidarité. D'accord? Mais en Afrique, si tu n'as pas des enfants, si tu n'en as pas fait suffisamment, que tu ne les as pas bien éduqués, pour que eux pourvoient à tes besoins, c'est le principe biblique. Mais nous devons vivre cette vie en tant que salarié ou chef d'entreprise, avec la rémunération que nous avons, de mettre de côté, de vivre pas seulement pour la période où on est en activité forte, mais prévoir un passage. La Bible nous dit, ne travaillez pas seulement pour la nourriture qui périt. Ne travaillez pas seulement pour cette saison-là, ou vous voulez en profiter, bâtir une maison, voyager, profiter, sortir. Mais pensez à mettre de côté. Ce qui fait que moi, quand on m'a dit, tu veux passer de l'URSSAF à la caisse des salariés normaux, à la caisse des ecclésiastiques, on m'a dit, mais c'est à la condition que tu te fasses toi-même ta retraite. Je ne sais pas si vous me suivez là. Parce que si tu n'y penses pas, tu dis, ouais, le Seigneur pourvoira. Il y en a plusieurs qui ont pensé ça et quand ils sont arrivés à la retraite, c'est compliqué. La Bible nous dit d'avoir la sagesse de mettre de côté. Et en fait, ça s'applique exactement à mon propos ce matin. Ne vivez pas, ne travaillez pas seulement pour la nourriture qui périt ici, mais en même temps que vous travaillez pour la nourriture qui périt, parce qu'il faut bien manger, il faut bien avoir un emploi, il faut bien avoir un salaire, travaillez pour une nourriture qui ne périt pas. Travaillez pour une retraite qui va faire que quand vous passerez du statut de travailler ici, etc., ici-bas, et que vous allez basculer, comme Alice a basculé, il y a une retraite, il y a des récompenses, il y a une rémunération sur laquelle elle va vivre quand elle sera au ciel. Ce que je vous partage ce matin n'est pas en contradiction à ce que j'ai partagé il y a 15 jours où je disais c'est la grâce de Dieu, c'est par grâce de Dieu que nous travaillons. Mais si nous ne travaillons pas en considérant la rémunération, on va voir ce matin que Dieu rémunère ceux qui travaillent pour lui. Si tu as trouvé ton travail et que ton emploi est un moment de formation dans lequel tu es, où tu vas rentrer dans ce que Dieu a préparé d'avance, et quand tu travailles pour Dieu, Dieu est un employeur fidèle, généreux, qui, parce que tu travailles pour lui, que tu es rentré dans son champ et que tu pratiques ce que la Bible appelle les œuvres préparées d'avance, tu es rentré dans son champ, tu es rentré dans son plan, tu accomplis sa volonté, la Bible nous dit, il y a une rémunération qui t'attend au ciel. Il y a une retraite que Dieu est en train de te constituer, que tu es en train de te constituer en travaillant dans les œuvres de Dieu, qui fait qu'à chaque fois que tu travailles dans ces œuvres et que c'est accompli, il dit, il y a le salaire qui t'attend. Et le salaire, il grossit, 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 qui va faire que quand tu vas arriver à ta retraite spirituelle, comprenez, quand tu vas mourir, ce qui t'attend va être extraordinaire. Alors du coup, ce que j'ai fait, et je veux faire un clin d'œil à Eric Cusache, ici, qui nous revient tout bronzé de La Réunion, eh bien, on a acheté un appartement dans le but, à la retraite, d'avoir quelque chose. C'est très concret. Sinon, tu manges la semence et tu ne sèmes pas. On vit avec moins, tous les mois, on rembourse un crédit pour payer cet appartement. Et du coup, au moment où on est à la retraite, eh bien, ça nous pourvoira concrètement. Ça veut dire que je vis avec moins pour ma retraite. Les revenus que j'ai, je les utilise pour ma retraite. Ce que je vais enseigner ce matin, c'est utilise les revenus, le salaire que Dieu t'a donné pour te constituer une retraite dans le ciel. Vous allez voir, Dieu est un très bon comptable. Il se souvient de cela et vous allez être étonnés de cette dimension où ça va équilibrer ce que j'ai partagé sur la grâce et ça en rapport au travail. Mets-moi la première slide, s'il te plaît. Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci, Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Un autre texte dit, il rémunère, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu se constitue comme celui qui t'emploie et parce que tu travailles pour lui, parce que tu as cette vision de l'éternité, parce que tu penses à la retraite, parce que tu penses à ce moment où tu vas basculer et où tu vas être sauvé. Moi, je ne veux pas contester ni remettre en question ici le fait que nous sommes sauvés par la foi et la foi seule. Nos œuvres, notre travail ne nous qualifient pas pour être sauvés. Il nous a aimés. Il s'est donné à 100%, il a payé le prix, on n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit pour le salut. Mais on va le voir ici, ce n'est pas parce que tu es sauvé, vous savez, la foi aide à entrer dans le ciel, ça nous dit où est-ce qu'on va aller, mais notre travail va déterminer comment on va vivre l'éternité. Notre retraite, soit elle est confortable, soit elle n'est pas, ça marche pour le ciel, ça va être étonnant. Ce que je vais vous partager ce matin, mais vous allez voir, c'est très important d'avoir la vision de cette retraite, de l'après. Et ton travail, la manière dont tu le vis, a une incidence. La suite, s'il te plaît. C'est par la foi, et là c'est l'exemple de Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est-à-dire que la Bible nous dit tout ce que Moïse a traversé, toutes les difficultés auxquelles il a confronté, tout son travail, il le vivait avec les yeux fixés sur un moment qu'il savait que Dieu allait comptabiliser tout ce qu'il a fait et qu'il allait au ciel le rémunérer. Il y a un salaire, il y a une rémunération, une rétribution, il y a des choses que Dieu a préparées d'avance qui vont contribuer à la qualité de notre retraite dans le ciel. Le salut est un don, on n'y revient pas. Mais il est très important de considérer que la manière dont on va gérer non seulement notre investissement dans le travail, nos relations. En fait, quand la Bible parle des œuvres préparées d'avance ou notre travail pour Dieu, il ne concerne pas que le moment où nous travaillons, les 8 heures où nous travaillons. Il considère toute notre vie. Il y a des œuvres préparées d'avance. Nos attitudes, nos paroles, nos relations, notre relation à l'argent, la manière dont on l'utilise, tout ceci est comptabilisé au ciel pour constituer notre retraite. Notre salaire. Imaginez, Dieu vous donne un salaire, une récompense, un revenu spirituel. Ça va être des choses concrètes. On peut s'imaginer que dans le ciel, on ne fera qu'adorer. Je voudrais vous annoncer que là, c'est une très mauvaise vision du ciel. Bien sûr qu'on va adorer, mais toute notre vie après notre mort va être concernée par la louange et l'adoration, mais pas que par le chant, pas que par le fait d'être prosterné. Les scènes qu'on voit dans l'Apocalypse, ce n'est pas que ça, le ciel. Ce qui va se passer après la mort, nous allons avoir des fonctions, un travail au ciel, des rôles, des fonctions à jouer, qui vont être en relation à la manière dont on a vécu notre vie, à la manière dont on a abordé le travail ici, mais absolument tous les autres domaines qui vont nous qualifier. La Bible nous dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, il lui confie des grandes. Celui qui est fidèle dans les choses d'autrui, dans les choses d'ici-bas, Dieu, ce qui va se passer après la mort, est en relation à la manière dont on vit ici. Il y a une sorte de promotion, de rémunération, des choses que Dieu nous donne en fonction de ce que nous vivons ici. Donc, ne vivons pas de manière inconsidérée, mais tous les jours de nos vies soient consacrés à constituer cette retraite. Dieu est vraiment concerné par la rémunération. Il est concerné par la rétribution juste. Quelque chose qui correspond directement à nos mérites. Là, pour le coup, il y a du mérite. Alors, ça pourrait être contradictoire. On pourrait dire, mais le salut est gratuit, oui. Mais la place et ta retraite et ta rémunération est fonction de quelque chose qui est juste en rapport de ce que tu as fait ici-bas. Il y a un lien. Donc il y a des gens qui vont arriver au ciel, ils vont peut-être être simples ici, avoir des revenus simples ici, pas gagner grand-chose. Mais la manière dont ils ont géré leur argent, leurs relations, toute leur vie, va leur donner une position qui va être bien au-dessus peut-être du patron qui les a employés. Quelqu'un qui avait une grande position, qui était très influent, arrivé au ciel dans la comptabilité du ciel, ben, il va avoir une position d'autorité, il va avoir un confort, une grâce, une bénédiction bien plus grande. Parce que Dieu dit, je comptabilise. Je constitue pour vous une retraite pour le ciel. Et cette retraite, c'est des revenus. C'est lié même à une notion d'argent qu'on retrouve énormément. 30% des paraboles bibliques de Jésus sont sur l'argent. Alléluia. Slide suivante. Voilà. Dieu aime récompenser. Comme nous, quand un enfant, on aime nos enfants de la même manière, mais un enfant qui, sur la base d'une promesse, fait ce que son père, sa mère, ses parents lui demandent. Pour moi, quand il gère bien, et la récompense est naturelle. Le principe de récompense dans la Bible, les principes des mérites dans la Bible, est sain. Les mérites de ce qu'on aura là-haut est fonction de ce que nous faisons. Et là-dessus, Dieu, il est très sérieux. Il dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints, il n'est pas injuste. C'est-à-dire, il se souviendra de cela, sur cette terre comme là-bas. Mais parce qu'il voit le travail de nos cœurs, l'amour démontré pour les saints, c'est-à-dire nos vies engagées, mais nos vies entières, il le comptabilise, il s'en souvient. Et il ne s'agit pas juste, hop, j'y pense. Non, il arrivera un jour, la Bible nous dit, il y aura un tribunal. Il y aura un moment de jugement. Il y aura un moment d'évaluation. Pas sur ce qu'on est, on est enfant de Dieu, mais sur ce qu'on a fait. Et il y a des gens, ils seront juste sauvés, on le verra tout à l'heure, comme au travers du feu. Mais d'autres, à cause de leurs œuvres, à
cause de leur travail. Dieu se souviendra de cela. La suite, c'est 2 Jean 1:8 nous dit « Prenez garde à vous-même, afin que vous ne vous perdiez pas, vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. » Une pleine, pas à moitié, pas une moitié de retraite, pas un quart de retraite, une pleine retraite, même encore plus que ce que vous avez imaginé que vous aviez capitalisé. Pourquoi ? Parce qu'en Dieu, Dieu multiplie toujours. Et il se souvient et il veut rémunérer, mais avec générosité. Il veut vraiment nous mettre au large. Mais ses fonctions, il dit, ne vous perdiez pas le fruit de votre travail. C'est-à-dire, quand vous avez compris ce que Dieu attend de vous, l'obéissance, votre champ de mission dans votre maison en tant que papa, en tant que mari, tout est engagé. Les services que vous rendez au sein, l'état d'esprit dans lequel vous servez, dans l'église, dans votre travail, partout, ces attitudes sont regardées au ciel et Dieu les comptabilise. Et il dit, donc prenez garde, soyez attentifs à vous-même, prenez garde à vos cœurs, prenez garde à vos motivations, soyez conscients que dans tout ce que vous vivez, si vous le vivez en ayant conscience qu'il y a un au-delà, il y a une rémunération, il y a un Dieu, il y a un moment de jugement, il y a un moment d'évaluation, tout ce que vous allez faire, ça va être conditionné. Je peux perdre ici, je peux gagner moins ici pour gagner plus dans le ciel. Pour gagner plus dans le ciel. Et dis donc, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas. Il y a la possibilité de perdre. Tu as commencé à gagner, mais la folie t'a traversé, et puis tu perds le bénéfice. Alors ça met une sorte de crainte dans nos cœurs, ça met une sorte de sérieux dans nos cœurs, dans toute décision, dans toute attitude. Tout ceci montera au ciel, et ça va être traduit. Un film va venir. Dieu va sonder, va regarder. Et ceci va être comptabilisé. On va voir le modèle de Jésus, je crois que c'est la slide. Non, Dieu aime ce qui récompense. Encore un texte, c'est 1 Corinthiens 3 qui nous dit « Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Il est en train de parler de Paul et Apollos. Paul a posé les fondements, Apollos a bâti dessus, il dit « On est égaux, nous ça c'est une chose, mais chacun... » C'est-à-dire que ce que recevra Paul concernera Paul. On ne va pas le comparer à d'autres. Dieu va juste comptabiliser ce qui te revient au ciel. Et quand il est parlé de récompense ou de rémunération, il s'agit d'un salaire mérité. Et il dit ça, Dieu le réserve. Il revient et il va rendre à chacun selon ses œuvres. Il va rendre à chacun selon son travail. Donc Dieu a des critères que nous ferions mieux de prêter attention à savoir. Il va dire, selon ces critères-là, je vais établir un niveau, un indice de retraite. Alléluia. Il fait ça. On rit, mais ce n'est pas des images ici. C'est très sérieux. Dieu revient et il va dire, à un moment donné, on va tirer la ligne et on va évaluer, on va peser le cœur avec lequel tu l'as fait. À un moment donné, il y a un des textes que j'ai lu en méditant cela. Paul dit, vous savez, j'ai été appelé à prêcher l'évangile, c'est mon travail. Eh bien, je ferais mieux de le faire de bon cœur. Même si je le fais de mauvais cœur, ok, il peut avoir un fruit. Mais parce que je le fais de bon cœur, il y a une récompense qui m'attend. Dieu regarde l'attitude du cœur. Ce n'est pas simplement ce que tu fais, mais l'attitude du cœur. Si l'attitude est bonne, Dieu dit, il y a une récompense. La récompense est grande. Même à des moments, Dieu dit, il y a une grande récompense pour toi. À un moment donné, Jésus dit, si vous êtes persécutés à cause de mon nom, si vous souffrez, que vous pleurez, que c'est dur, réjouissez-vous. Pourquoi ? Vous connaissez la suite ? Réjouissez-vous. Non. Réjouissez-vous. Oui, ça c'est un texte. Vos noms sont inscrits. Mais dans le texte de Matthieu 6, il dit quoi ? Parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Le texte dit, réjouissez-vous. On vous frappe, on vous persécute, c'est dur. Mais votre attitude en voyant la récompense, il dit, je me réjouis, réjouissez-vous, hein. C'est dur, à cause de mon nom tu souffres. Mais il y a un salaire pour ceux qui souffrent pour le nom de Jésus. Ceux qui traversent la situation en gardant les yeux sur la rémunération, mais aussi en gardant un cœur pur, en désirant. Mais vraiment, vous savez, c'est les béatitudes, heureux les pauvres en esprit, heureux les humbles, ils hériteront la terre. Tout ceci, quand on le vit, ça comptabilise pour nous une retraite au ciel. Réjouissez-vous. Vous êtes persécutés, réjouissez-vous, il y a une récompense au ciel. Alors la question, c'est quelle est cette récompense ? Qu'est-ce que Dieu nous réserve ? Qu'est-ce qui est prévu pour nous au ciel. Parce que très souvent, si on n'a pas cette vision, on vit, on dit, ben écoute, si je peux avoir tiré un peu les marrons du feu pour avoir une retraite ici-bas, profiter un peu. Non, il y a une vision du ciel que Dieu veut nous donner, comme Moïse a eu, comme Jésus a eu. Il est dit, à cause de la joie qui lui était réservée, il a supporté l'ignominie, il a supporté l'opprobre, il a supporté la honte, la souffrance, parce qu'il avait une vision. Parce qu'il avait une vision. Et lorsqu'on perd la vision de l'éternité, quand notre espérance, notre vision ne voit pas plus que la fin, là, si tu as 50 ans, tu vas voir 80, 90, si tu as, quel que soit l'âge que tu as, tu vois quelque chose pour l'année qui est là, pour les jours qui sont, les semaines qui sont là. La question c'est, est-ce que tu as une vision pour l'éternité? Dans ton travail, dans ce que tu fais, dans ta mission de vie, une vision pour l'éternité. Paul dit, j'ai la vision, la couronne de justice m'est réservée. Il voit la récompense. Il dit, j'ai achevé la course, j'ai couru le bon combat, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi et la couronne de justice m'est réservée. C'est-à-dire qu'il y avait dans la vie des apôtres, dans la vie de Paul, dans la vie de Jésus, dans la vie de Moïse, une vision d'éternité qui imprégnait les attitudes, les actions qu'ils avaient dans leur travail, dans leur vie, dans leur famille, dans la manière de traiter son mari, ses enfants, dans la manière de traiter les gens du dehors, quand la parole de Dieu dit, les non-croyants. Tout ceci est comptabilisé et fait une différence. Donne-moi la slide suivante. On va voir que Jésus avait... Non, c'est le modèle de Jésus. Il a marqué la marque de la grâce, mais ça c'est le modèle de Jésus. Ah voilà. Jésus avait une mission et... On le sait, l'Esprit du Seigneur était sur lui pour annoncer une bonne nouvelle. On connaît les miracles qu'il a accomplis. Enfin, tout ceci, ça faisait partie de sa mission. Mais Dieu avait prévu pour lui que des personnes le soutiennent. C'était des femmes. On le lit dans Luc 8, 2-3, les 12 disciples étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et des maladies, Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne, et plusieurs autres femmes qui l'assistaient de ses biens. C'est-à-dire, le Seigneur avait donné une mission dont Jésus, de laquelle Jésus ne tirerait pas un salaire, quelque chose de pécunier qui lui permette de vivre. Et Dieu a pourvu une sorte de... Moi, j'appelle ça un modèle économique. Jésus avait un modèle économique. Et je m'arrête ici pour dire, quand Dieu t'appelle, il se débrouille pour te donner un modèle économique. Ce n'est pas obligé... Or, ça peut être le top, hein, que les personnes... D'ailleurs, ici, dans son modèle économique, c'est des personnes qui ont bénéficié de son ministère. Il a chassé des démons, il les a guéris, et parce qu'elles avaient les moyens, elles sont venues soutenir le ministère de Jésus pour qu'il continue de le faire pour d'autres. Et je crois que quand on a trouvé ce pourquoi Dieu nous a appelés, écoutez bien ce que je vais vous dire, il y a un modèle économique, Dieu se débrouille pour que nous puissions vivre de l'activité pour laquelle il nous a appelés. C'est pour ça qu'il est dit, l'ouvrier mérite son salaire. En fait, l'ouvrier, c'est qui? C'est quelqu'un que Dieu a appelé pour une mission. Et Dieu dit, c'est moi qui t'emploie, c'est moi ton employeur. C'est mieux que l'État et c'est mieux que d'être fonctionnaire. Je te donnerai la provision pour la mission à laquelle je t'ai appelé. Elle sera juste, elle ne sera pas peut-être à la hauteur de ce que tu t'attendais. Mais je pourvoirai à tes besoins si tu rentres dans mon champ. Si tu deviens mon ouvrier dans mon champ, je te dis, moi ton employeur, moi qui t'envoie, je pourvoirai à tes besoins. Pourquoi ? L'ouvrier mérite son salaire. Celui qui travaille pour moi mérite d'avoir un salaire. Et ce salaire, c'est moi qui le donne. Soit ici-bas, soit là-haut. Mais il aura une salaire. C'est sûr. Imaginez, Dieu, il est vraiment en colère quand des patrons humains spoilent, volent, retiennent le salaire d'un ouvrier. Mais vraiment, il est dans une grande colère. D'accord ? Imaginez, lui-même emploie quelqu'un, il lui demande de le servir, mais ça ne peut pas que cette personne puisse manquer de quelque chose. Donc, il y a un modèle économique. C'est-à-dire, Dieu va vous conduire à avoir les ressources nécessaires pour accomplir la mission à laquelle il vous a appelé. Sinon, ce n'est pas lui qui vous a appelé. Si c'est lui qui vous a appelé, il dit, je me porte garant. Je vais te salarier, je vais te rémunérer. Et il dit, je vais rémunérer ceux qui me cherchent. On est sur le texte de la foi, celui qui croit en Dieu doit croire que Dieu existe, mais il doit croire deux choses, mais qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il existe, mais il existe pour pouvoir défendre ton salaire, alléluia, défendre tes besoins, et c'est lui ton employeur. Alors du coup, de temps en temps, moi je dis au Seigneur, c'est toi mon patron,
n'est pas simplement ici l'église clé qui me paye. C'est toi mon patron. C'est toi qui m'as employé. Et c'est toi qui pourvois mes besoins. Je ne dépends pas du salaire de l'église. Est-ce que vous le savez ça? Parce que je suis dans son champ. Parce que je suis dans son appel. Et c'est lui qui garantit. Si c'est lui qui m'a appelé authentiquement. Parce que s'il ne m'a pas appelé et que je mets mon propre modèle économique en place, la bénédiction ne vient pas. La bénédiction vient quand on le laisse nous employer et qu'on vient vers lui en disant « Mon salaire vient de toi ». Jésus disait « Ne vous inquiétez de rien ». Quand même, Matthieu 6, il faut le lire et le relire quand même. Hein. Les oiseaux du ciel, ben, tu sais, ils ne moissonnent pas, ils ne sèment pas, mais Dieu pourvoit. Les moineaux, vous savez, mais là, vous, chacun des cheveux de votre tête sont comptés. Vous valez bien plus que les moineaux. Bon, ok, mais ça veut dire qu'il faut avoir une foi telle que pour dire, mais même si ça ne vient pas de mon salaire, de l'activité que je fais, Dieu trouvera le moyen pour pourvoir à mes besoins. En fait, nous devrions tous avoir pour employeur Dieu. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers dans son champ, c'est lui l'employeur et c'est lui qui pourvoit. Si tu dépends de quelqu'un d'autre au niveau de ton salaire, si ta sécurité dépend de quelqu'un d'autre que de Dieu, j'ose dire que ça pourrait être mammon. Si ta confiance, si tu es en paix ou en inquiétude en fonction de... Si c'est Dieu qui est ton fournisseur, Dieu qui est ton employeur, Dieu qui garantit ton salaire, il y a une sécurité qui vient dans son cœur. Jésus dit, j'ai une mission, j'ai même pas besoin que quoi que ce soit se passe ici-bas sur terre, Dieu pourvoit. Et il a touché des personnes qui avaient des biens, qui faisaient que c'est elles qui faisaient fonctionner la boutique parce que vous avez 12 personnes à charge tous les jours, des hommes à manger. Je ne sais pas l'argent qui devait être débloqué pour que ça fonctionne, mais je vous garantis qu'il y avait de l'argent qui était libéré. Elles pourvoyaient. Elles avaient été bénies, elles pourvoyaient. Je vous annonce, je vous encourage à prier Dieu. Si vous entendez sa voix, vous êtes dans cette période d'exploration, vous dites « Seigneur, j'ai compris la mission que tu veux pour moi. Eh bien, je m'engage à ce que tu sois mon pourvoyeur. » Et que tu pourvois d'une manière ou d'une autre. Et du coup, il va y avoir des idées, des solutions. Parce que des fois, les activités qu'on a, surtout au début, ne peuvent pas pourvoir. C'est-à-dire les personnes qui bénéficient de ce qu'on a à cœur de faire. Imaginez les prostituées, imaginez vous voyez, des gens vraiment en grande difficulté. Ce n'est pas les personnes qu'on sert, ce n'est pas les personnes qui sont l'objet de notre mission qui vont pouvoir pourvoir à nos besoins. Mais le Seigneur sait comment faire en sorte que d'autres puissent pourvoir pour les personnes, à la place des personnes que vous servez. C'est une vraie prière. Et ce modèle va se multiplier au milieu de nous. Je crois que de plus en plus de personnes vont se mettre à plein temps pour le cœur de leur mission, sans s'attendre à une sécurité des personnes qui vont servir pour pouvoir les bénir. Il y a des provisions de Dieu pour accomplir la mission. Paul, il avait cela, pareil. Il avait des personnes qui étaient avec lui. Il faisait lui-même des tentes. Et quand il avait suffisamment de monde pour faire des tentes, il se consacrait à sa mission. Il y avait un modèle économique pour accomplir la mission que Dieu lui avait confiée. L'ouvrier mérite son salaire. Ça veut dire que ce salaire est juste, ce salaire rencontre les vrais besoins, ce salaire te libère dans ta mission. Et c'est Dieu qui pourvoit. Il dit, l'ouvrier, quand ce texte est cité, il est cité à deux reprises. Jésus envoie ses disciples, il dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement partout où vous allez. Ne vous inquiétez pas de là où vous allez manger, de quoi vous serez vêtu. Je pourvoirai. C'est moi qui vous précéderai. Je disposerai le cœur d'un homme de paix qui vous recevra chez vous. Et il rajoute, car mon ouvrier mérite son salaire. Et je crois que tous ceux qui sont en train de bouger vers le travail que Dieu a pour eux, doivent être délivrés. On va prier ce matin qu'ils soient libérés de la crainte de manquer parce que Dieu lui-même déclare sur vous, tu es mon ouvrier, tu mérites ton salaire. Amen. Ok, mets-moi la slide suivante. Alors voici le texte que Jésus nous donne, et on est toujours sur le travail, il dit « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Il est en train de nous dire que si nous gardons la vision
de la rémunération que Dieu va nous accorder. Alors, à chaque fois qu'il s'agit de rémunération, il y a un texte qui dit, il n'y a personne qui a quitté père, mère, maison, frère, sœur pour me servir. Dieu pourvoira leurs besoins ici-bas et maintenant, en même temps qu'il pourvoira, qu'il y aura une rémunération et des ressources nécessaires pour le ciel. Il y a toujours ces deux dimensions dans la rémunération que Dieu veut manifester à son peuple. Ces deux dimensions. Travailler pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Alors, un point très concret pour le travail, pour la nourriture qui périt pas, qui est dans le ciel, c'est la manière dont nous utilisons l'argent que Dieu nous a donné. Rentrer dans un des aspects, on pourrait en développer plusieurs, mais un des aspects très importants qu'on retrouve dans Luc 16, Jésus dit, d'ailleurs si tu peux me le mettre, s'il te plaît, Luc 16, c'est pourquoi, si on ne peut pas vous faire confiance pour l'argent trompeur, c'est-à-dire l'argent d'ici-bas, vous travaillez, quand vous travaillez pour la nourriture qui périt, c'est vous travaillez, vous gagnez de l'argent qui vous permet d'avoir de la nourriture pour vivre. En fait, c'est ce qui vous permet de vivre. Et il dit, cet argent trompeur, cet argent injuste que tout le monde recherche, a besoin, etc., c'est injuste ici-bas. Mais il dit, dans la gestion de cet argent, si on ne peut pas vous faire confiance, c'est-à-dire si votre gestion, si votre rapport à cet argent, la manière dont c'est utilisé, en regardant votre gestion, s'il n'y a pas de quoi une semence qui investit pour l'avenir, Jésus dit ici, si on ne peut pas vous faire confiance pour l'argent trompeur, qui va vous confier les vraies richesses? On parle des richesses spirituelles, on parle de la rémunération spirituelle. Personne ne vous les confiera parce que, je veux dire, il faut juste être, c'est du bon sens. Si vous ne savez pas gérer, ça ne peut pas venir plus pour vous, en plus le but, ce n'est même pas pour vous, c'est que vous allez avoir suffisamment pour vous et vous allez avoir pour de quoi donner. Et quand vous donnez dans la gestion de votre argent, si on voit votre budget, c'est-à-dire travailler pour le ciel, c'est regarder votre budget et de dire, je consacre tant d'argent à côté. C'est-à-dire, on dit, moi j'ai suffisamment, je mets tant de côté pour écouter le Seigneur. Écoutez, ça c'est un point important. Pour écouter le Seigneur, pour que le Seigneur dise, bon, tu vas donner à un tel. Tu vas donner à un tel. Tu vas donner à un tel. Cet argent géré, mais sur les principes du royaume, vont permettre, c'est-à-dire vont être la semence dont Dieu va regarder en disant, tu m'écoutes, tu drives, tu gères, tu disciplines ton budget, il y a de plus en plus d'argent que je te donne, que tu mets de côté pour que ce soit utilisé pour mon royaume. Ça grandit. En fait, plus tu donnes, en fait, c'est le principe, hein, plus tu mets de l'argent de côté pour ta retraite, plus tu en auras. Pas compliqué. Un peu tous les mois, un peu. Et dès que tu gagnes plus, tu mets encore plus de côté, ta retraite est grande. Exactement la même chose pour le royaume. Tu gagnes un salaire, tu travailles. Et quand on travaille, c'est le but de gagner de l'argent. Pas pour autre chose. Personne ne se lève ici pour dire non, moi je travaille, l'argent ne m'intéresse pas. On en a. Quand ça y est, si c'est géré dans la perspective du ciel, je vais mettre de côté. Donc cet argent est mis de côté. Et puis à un moment donné, le Seigneur te parle et il dit, fais circuler cet argent, tu vas bénir ici, tu vas bénir là. C'est pour ça que la Bible lui dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand Paul dit ça aux Éphésiens, aux anciens d'Éphèse, il est en train de leur dire, écoutez, ses mains ont travaillé pour augmenter mon bonheur de donner. J'ai travaillé dur. Maintenant que j'avais de l'argent, cet argent de côté, je l'ai utilisé pour aider les faibles, pour aider ceux qui étaient en difficulté. J'ai cumulé de l'argent, j'ai géré mon argent avec la perspective du bonheur qu'il y a à donner et aussi de la rémunération qu'il y a au ciel. Ce qui fait qu'avec Marilyn, on est en train de discipliner, ou ça fait un moment qu'on le fait, pour avoir une force de frappe. Alléluia. Une force de frappe. Écoutez-moi, c'est très sérieux. La capacité à donner, le pouvoir de donner. Mais avec humilité, pas pour dominer, pas pour se glorifier. Le pouvoir. Et ça veut dire quand tu te poses. Et en faisant ça, on augmente notre pouvoir de donner. Et quand on donne, je sais que je sais. La motivation, c'est pas que Dieu me bénisse, me voit, etc. Et que c'est pas la motivation première, mais il y a une rémunération. Tout ce que je fais, il y a une rémunération au ciel. Donc, être capable d'avoir de l'argent de côté et de frapper, d'écouter le Seigneur. Quand je dis frapper, vous comprenez ce que je veux dire. Et de bénir. Et de faire du bien. Mais la manière d'utiliser son argent. te capitalise une retraite au ciel. Et Dieu dit rémunération. Et alors là, on n'est pas dans les 0,75 du livret A. Hein. Voilà. Ni même les je ne sais pas combien des assurances vie. Hein. Non. Le taux du ciel. Oh, alléluia. Chaque semence, c'est au moins 30. La Bible lui dit. Une semence, 30, 60 et 100. Ça, c'est les proportions du ciel. Ça vaut le coup d'investir au ciel, je veux vous dire. C'est pas la bourse, hein, c'est pas la bourse, mais ça vaut le coup. C'est ferme, ça tremble pas, c'est inébranlable. Ça, c'est un trésor qui t'attend au ciel. Le trésor qui est lié à la manière dont tu gères ton argent. Or, du coup, tu travailles, pour faire le résumé, tu travailles ici-bas, tu gagnes de l'argent. Dans ton travail, tu travailles pour la nourriture, pour le ciel, qui t'attend au ciel. Et donc, il y a une partie. Alors, je ne parle même pas de la dîme, comprenez ? Écoutez bien ceci, la dîme appartient à Dieu. La Bible nous dit, ça lui appartient. Donc ça veut dire que si tu ne donnes pas ta dîme, tu voles. C'est ce que la Bible dit. Hein. Tu voles, ça appartient à Dieu. Donc ça veut dire c'est sanctifié. C'est déjà dans ta gestion, il faut que ça y soit. La dîme, c'est 10% de tes revenus. Ça appartient à Dieu. D'accord ? Maintenant, le reste, les 90, t'appartiennent. C'est la semence. Et dans les 90, imagine que tu as encore 10%. Nous, on cible ça avec Marie-Hélène et on est en train d'y arriver. 10% de plus pour avoir le pouvoir de bénir les autres. Il n'y a que Lynn pour dire amen. Est-ce qu'on peut dire amen ensemble, ça? Ça veut dire que dans ton travail, tout est mis en œuvre avec la vision d'une rémunération. Alors, comprenez bien, ce n'est pas mercantile ici. C'est pas, ah je donne, etc., et puis Dieu va me bénir. Et moi, le nombre de fois où j'ai entendu, j'ai été fidèle à mes dîmes, j'ai été fidèle à mes offrandes, et puis Dieu ne m'a pas béni. Je ne sais pas si ça se peut que vous ayez entendu ça. Ouais, on dit, on rend des témoignages que quand on le fait, oh, il y a des choses extraordinaires. Moi, je voudrais vous dire, si c'est ça qui vous motive, il y a un problème. Il faut que la motivation soit le don par amour pour Dieu. Quand ça, c'est ça, mais Dieu, quand il dit, il voit ça. Dieu dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Quand il y a de la joie, tu as compris le principe de donner, mais c'est une grâce. Avec Marie-Hélène, quand on fait ça, mais c'est un temps d'adoration que de dire, waouh, on a pu mettre de côté. Et je ne vous dis pas, même les offrandes de la vie de l'Église, ça c'est acquis. Mais maintenant, en plus, et quand on donne aux pauvres en particulier, on passe de 30% à 100%. La Bible dit, celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Alors imaginez, vous êtes en dette avec Dieu. Dieu vous doit. Et il rend avec intérêt. Gérez votre argent. Si vous donnez aux pauvres, Dieu dit, tu es en train de capitaliser au ciel. Souvenez-vous de Corneille. Corneille. Longtemps dans sa vie, il a pris soin des pauvres. C'est le premier païen que Dieu vient visiter d'en haut. Et il y a une phrase qui est dit, Dieu s'est souvenu de tes prières et de tes aumônes. Les aumônes, c'est quoi? Tu as pris soin des pauvres. Tu as utilisé ton argent, tu es certainement en confort, mais tu as pris soin des pauvres. Et je vais vous dire, il ne s'agit pas de dire, ne parlons pas, ne nous préoccupons pas des pauvres quand on est riche. Quelqu'un qui a juste ce qu'il faut, mais qui gère son argent pour dire, moi j'ai quoi, 25 euros par mois pour donner aux pauvres? Je mets 25 euros pour donner aux pauvres, vraiment. Et je fais ça avec sérieux, parce que je sais que mon argent, qui est le fruit de mon travail, est utilisé pour travailler pour moi, pour le ciel. Merci Jésus. Alors la suite nous dit, donc, qui va vous confier les vraies richesses? On parle des richesses spirituelles, on parle des positions d'autorité, on parle de ton propre champ, des œuvres qui sont préparées d'avance pour toi. Il y a toujours une période de formation, une période où Dieu te teste. Il teste la manière dont tu utilises, tu travailles, la motivation de ton travail et la gestion du fruit de ton travail. Et quand du coup il y a de la fidélité, quand du coup il y a une gestion qui correspond au principe du royaume, ça déclenche des vraies richesses dans la vie, ici-bas et dans le ciel. Et si on ne peut pas vous faire confiance pour les richesses qui ne sont pas à vous. Qui va vous confier ce qui est à vous? C'est compliqué. Il y a quelque chose qui est à vous. Il y a des richesses, c'est à vous, ça vous appartient. Il y a des œuvres qui vous appartiennent. Il y a des choses que vous allez produire qui vont produire de la richesse. Mais Dieu dit, je ne te les confie pas tant que tu n'es pas fidèle dans ce que tu, dans le travail. Et surtout dans la gestion du fruit de ce travail-là. L'attitude que tu as quand tu travailles. Mais maintenant, l'attitude et la relation que tu as à, ce, à cet argent. Ce qui fait que je rappelle ici un principe que j'ai déjà dit, à, je pense, à 1 an et demi ou 2 ans, où les fameux 20 autres pourcents devraient être utilisés pour des offrandes à hauteur de 2,5% fois 4, ça fait 10%. Offrande, aumône, épargne et fonds d'urgence. Ces quatre postes, mais rencontrés... Alors, c'est pédagogique pour dire j'ai 10% de plus pour pouvoir bénir. Ce qui fait que notre propre église ici pratique cela, est en train de mettre de côté pour atteindre l'objectif que nous-mêmes en tant qu'église, nous puissions donner des aumônes, nous-mêmes en tant qu'église, nous puissions donner des offrandes, nous-mêmes en tant qu'église, nous puissions épargner, et nous-mêmes en tant qu'église, avoir un fonds d'urgence. Toutes ces choses se sont mises en route au milieu de nous pour être un modèle et rentrer dedans. Depuis que je suis pasteur, que je fréquente d'autres églises, moi je l'ai reçu à cœur, je ne l'ai pas entendu d'ailleurs, ou si c'est pratiqué dans une ou deux églises, mais une chose qui se passe, c'est que je crois que la faveur de Dieu va venir grandement dans notre église quand on va pratiquer cela. Quand on va pratiquer cela. Le ciel s'ouvre. Le Seigneur dit lui-même, je menacerai celui qui dévore parce que non seulement tu donnes la dîme, mais tu donnes des offrandes et tu utilises ton argent pour être une source de bénédiction pour le royaume de Dieu. Alors, l'autre slide, on va bientôt finir pour prier. Si quelqu'un construit une maison qui résiste au feu, celui-là recevra une récompense. Au contraire, si son travail est brûlé, il perdra tout. Lui, il sera sauvé, mais comme quelqu'un qui traverse le feu pour s'échapper. Alors, je vous refais le contexte, nous sommes dans Corinthiens. Paul est en train de parler de cela, il dit attention à la manière dont on pose les fondements sur ce que lui, là, en fait, il a fondé cette église sur Jésus, sur les principes de l'évangile. Et il dit, attention à comment on bâtit dessus. Et la suite, c'est ça. Il dit, si on construit une maison qui résiste au feu, celui-là recevra une récompense. Ça veut dire, toi tu es sauvé, tu as placé ta foi en Jésus, quand tu arrives au ciel, au moment du tribunal, au moment de l'évaluation, tu es sauvé. La question du salut n'est pas remise en cause. Par contre, les œuvres que tu amènes, tu les construis avec une matière qui va passer au feu ou pas. C'est-à-dire, l'épreuve, l'évaluation fait que ça passe au feu. Donc toute ta vie, la manière dont tu as géré ton argent, la manière, je vais citer deux autres points très importants, relation à l'argent, mais le fait que dans ton travail, tout est fait pour que le royaume de Dieu soit manifesté. C'est aussi simple que cela. Et en particulier, que le témoignage de l'évangile soit grand, impactant, pour que des vies passent des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. C'est des critères très importants. Le témoignage, le caractère de Christ qui est vu au travers de toi. Toutes ces choses participent. Du coup, tes œuvres arrivent au ciel et passent au feu. Et la manière dont tu as vécu ta vie, soit il y a de l'or, soit il y a des pierres précieuses, et quand ça passe au feu, ça tient. Et du coup, il y a une rémunération en fonction de cela. Cette fameuse rémunération, cette récompense, ce salaire, c'est des synonymes. Rémunération, récompense, salaire, c'est la même chose. Tu recevras une rémunération. Sinon, ben si le travail est brûlé, c'est-à-dire parce que les motivations n'étaient pas bonnes, parce qu'il n'y a pas une gestion selon Dieu, parce que les relations n'étaient pas en paix, etc. Ça va passer. Il n'y a rien qui restera, mais par contre, toi, c'est comme si tu arrives au ciel tout nu, ou juste avec ton short, ton t-shirt, tu arrives au ciel. Le reste, il n'y a rien. Alors que la Bible nous dit, les œuvres des justes les accompagnent. C'est-à-dire, les œuvres passent au travers du feu, et puis traversent parce que c'est en or, c'est en argent, c'est en pierre précieuse. Et du coup, il est important de vraiment, finalement, sanctifier nos vies, se consacrer à Dieu, et vraiment laisser Dieu nous travailler, pour qu'il y ait un alignement dans le travail et tout ce qui va avec pour que dans le ciel, il y ait une récompense qui corresponde. Sinon, c'est binaire. C'est binaire. Tu seras sauvé. Alors je me dis, mais quelqu'un qui a échappé au feu et qui est là au ciel, il dit, ouf, j'ai échappé belle, mais rien. Il n'y a pas de rémunération. Alors il y a des déclinaisons. On pourrait prendre le temps d'étudier ce qui se passe au ciel, ce qui va se passer au ciel. On va gérer les villes, la Bible nous dit. On va gouverner. Il va y avoir des missions sûr, confié, parce que c'est les richesses véritables qu'on a lues tout à l'heure, parce que c'est ce qui nous revient de droit et qui correspond à l'héritage des saints dans la lumière et dans le royaume de Dieu. On en vient à la prière. Donne-moi la dernière slide, à moins que ce soit la dernière. Voilà. Voilà, tout le principe de mérite qui est là aussi dans la Bible, quand les anciens qui dirigent bien l'Église, ils méritent de recevoir un salaire double. On est dans de la rémunération, des récompenses ici. C'est Paul qui écrit, il le mérite surtout quand il travaille durement au service de la parole et pour enseigner. En effet, les livres saints le disent, quand le bœuf travaille pendant la récolte, ne l'empêchez pas de manger les épis. Et encore, l'ouvrier doit recevoir un salaire. Dans la pensée biblique, il y a une notion de rapport entre le travail que nous fournissons et que Dieu lui-même pourvoit comme un principe de gestion dans la vie d'une église, mais pas que une maison, une mission. Dieu veut récompenser. Et je voudrais prier maintenant par rapport au fait que je crois que plusieurs, depuis plusieurs mois, si ce n'est pas des années, ont conscience d'un appel mais n'osent pas aller. Et je ressens vraiment de la part du Seigneur de vous dire qu'il dit: toi, mon ouvrier, tu mérites le salaire. Ne crains pas, je vais pourvoir. Je crois qu'il y a aussi un deuxième appel au niveau de la gestion de ce que tu as déjà pour que ce soit un tremplin pour une promotion, pour être libéré au cœur de la mission que Dieu t'a confiée. Mais je veux proclamer sur notre Église, l'ouvrier mérite son salaire. Dieu lui-même est ton pourvoyeur, Dieu lui-même est ton employeur et c'est lui qui garantit ton salaire juste dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Et je crois que ceux qui traversent des périodes, ça fait un moment qu'on en parle, et je crois qu'il y a même un service d'accompagnement à ceux qui ont du mal à gérer, parce que des fois ça vient se reposer sur un héritage qui n'est pas bon, d'éducation, des fois même il y a des malédictions qui sont là sur des familles, et qui font que c'est comme un panier percé, tu n'arrives pas à prospérer tout simplement, et on ne parle pas de la prospérité, la théologie de la prospérité, mais avoir suffisamment pour bénir, finalement, pour pouvoir capitaliser, gérer suffisamment selon Dieu, pour pouvoir capitaliser, bénir, et utiliser le fruit de ton travail pour bénir. Alors, je veux vraiment prier, je nous propose de nous lever pour que il y ait une mise au large. Je veux proclamer que Dieu est berger, on l'a chanté. Dieu est maître de la moisson, il envoie des ouvriers, mais ces ouvriers vont être mis au large. Alléluia. Les ouvriers choisissent de gérer selon Dieu, sur la base d'une fidélité de la gestion de cela, pour une promotion, pour rentrer dans ce que Dieu a préparé d'avance. Alléluia. Nous sommes devant toi, Seigneur. Nous sommes devant toi, Seigneur, comme ceux que tu as appelés. Je sais qu'il y a beaucoup d'appelés et tu nous as appelés à être tes enfants d'adoption. Tu nous as appelés à te servir. Tu nous as mis à part pour cela. Je veux proclamer dans l'Église aujourd'hui que toi qui appelles, toi qui mets à part, toi qui as semé des visions, toi qui as donné de saisir et de comprendre ce à quoi nous sommes appelés. Dans cette saison de notre vie d'église où nous sommes dans le travail, et je crois que tu es en train de réveiller des rêves et tu as commencé de le faire et qu'on se met en mouvement, je veux proclamer que tu es le bon berger qui pourvoit chacun de nos besoins. Je veux proclamer ici et parler aux esprits, au cœur, au monde spirituel comme des circonstances. Je veux proclamer que tu es celui qui appelle les ouvriers, qui pourvoit leurs besoins. Je veux délier ces ressources au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux aussi bénir toute démarche ce matin de gérer selon toi pour amener la faveur, pour amener la promotion, pour amener une mise au large, parce que tu es celui qui appelle et qui pourvoit. Tu t'engages à être notre rémunérateur. Tu t'engages à récompenser. Seigneur, je prie que les récompenses soient évidentes. Nous ne vivons pas pour cela ici-bas, mais nous capitalisons pour le ciel. Et je te prie qu'il y ait des visions, comme Moïse a vu la rémunération, comme Jésus a vu, comme Paul l'a vu, que plusieurs aient les yeux ouverts sur le ciel, sur ce qui les attend, sur ce que tu as préparé d'avance, la place que tu as préparée, Seigneur, au nom de Jésus-Christ.
Et je bénis, Seigneur, la gestion des uns et des autres, des familles. Et je parle une mise au large d'en haut. Et qu'il y ait un encouragement, c'est-à-dire qu'on se met en mouvement pour dire on veut mettre de côté, on veut vraiment augmenter notre pouvoir de donner. Alors qu'on le fait, je prie, Seigneur, que le ciel s'ouvre. Tu l'as dit, ton bon trésor, le ciel. Mais que surtout, Seigneur, il y ait une capitalisation, Seigneur, du ciel, que nous travaillons pour les choses d'en haut. Renouvelle l'espérance, la conscience des choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut où tu es, Seigneur. Dans le travail que tu nous as confié ici-bas. Je te remercie aussi, je veux bénir les œuvres préparées d'avance que tu révèles, Seigneur, dans ce temps, et qu'alors que nous les pratiquons et que nous sommes fidèles, je délie les promotions. Je délie tes promotions. Tu confies les richesses véritables. Je prie que tu confies des révélations. Je prie que tu confies vraiment des places d'autorité. Je prie que tu confies des places de gestion, Seigneur, où il y a une influence du royaume de Dieu. Je veux délier les vocations pour rentrer dans ce qui est préparé d'avance. Je sais que c'est toi qui promotionnes tes enfants sur cette base, sur ce que nous avons partagé. Et qu'alors qu'ils le font, je sais qu'il y a une capitalisation du ciel. Je le proclame et je te demande, Seigneur, une ouverture du discernement, souverainement, du discernement, d'une compréhension spirituelle, des enjeux de comment nous vivons ici, comment nous gérons ici, pour un ciel, une retraite glorieuse en toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.